Chers amis, bonjour. Au micro ce matin, Daniel Zavagno. Au nom de la communauté protestante de Blégny, je vous souhaite un bon dimanche. En ce dimanche de confinement, Jean-Luc et moi sommes heureux de partager encore une fois un culte audio. Je vous souhaite une bonne écoute. Notre but est de vous encourager et en quelque sorte briser cet isolement qui est pesant pour chacun de nous. Peut-être que vous vous sentez vraiment seul, et j'ai repensé aux paroles du psaume 22, qui nous dit ceci. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans cesse sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Vous vous sentez abandonné des vôtres et même de Dieu peut-être. Et un cri s'échappe de votre bouche. Dieu nous abandonne. Dieu n'écoute plus nos prières. Détrompez-vous. Dieu contrôle toutes choses sur cette terre. N'ayons pas peur de regarder vers notre Dieu, car il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Prions. Notre Dieu, nous voulons nous rappeler tes nombreux bienfaits. Nous voulons nous rappeler tes jours heureux d'autrefois. Nous sommes confiants, sachant que nos destinées sont dans tes mains. Tu mets en nous ta paix, nous tes enfants, et sur ce monde aussi tu mets ta paix. Ô Dieu, visite la terre, mets ta consolation dans nos cœurs. Nous pensons aux malades, pose ta main sur eux. Nous pensons aux familles endeuillées, va les consoler. Dieu d'amour, protège cette humanité, qu'elle reconnaisse que tu es le Dieu souverain. Merci, mon Dieu, d'accomplir tes promesses. Amen. Bien sûr, il y a des pourquoi, des comment qui montent vers Dieu. Alors, écoutons Jean-Claude Janata, nous chantons
« Pourquoi ?»
Et de donner autant.
qu'est-ce qu'il fait pour toi?
La parole de Dieu, la Bible, nous dit que Dieu prend soin de toute sa création. Je veux vous encourager par quelques textes avant de céder la place à Jean-Luc pour la méditation de ce matin. Car Dieu tient à nous, chers amis. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, les versets 11 à 13, il est écrit cela. « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. » Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Des projets pleins de bonheur, oui, certainement, mais il faut pour cela s'approcher de Dieu et non s'en éloigner. Dieu nous connaissait avant notre naissance et tient tous nos jours dans sa main. Et le psalmiste de garder une confiance absolue en son Dieu. Au psaume 139, les versets 16 à 18, il nous est dit ceci. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord de mer. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. » Dieu ne nous abandonnera pas. Je désire partager encore quelques promesses afin de vous encourager en ces temps difficiles. Le psaume 94, au verset 14, nous dit « L'Éternel ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. » Dans le Deutéronome, au chapitre 31, verset 8, il est dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Chers amis, Dieu est fidèle, malgré les temps difficiles que nous traversons. Sachez qu'il est bien là. Il veille sur nous. Il n'a jamais dit que nous serons épargnés de souffrances, mais il nous garantit de son secours. Comme le dit le psaume numéro 2, « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Chers amis, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu est bon et est amour. Malheureusement, la plupart des humains l'ont rejeté et le rejettent toujours. Encore aujourd'hui, il nous tend ses bras d'amour. Jean 3,16 nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. » Ce message est toujours d'actualité aujourd'hui. Prions. Seigneur, tu es celui qui aime l'humanité. Tu es celui qui tient le monde dans tes mains. Mon Dieu, nous prions afin que nos contemporains ouvrent les yeux et découvrent ton amour. Seigneur, bénis nos auditeurs, qu'ils reçoivent ce message d'espérance. Amen. Maintenant, je laisse la place à Jean-Luc qui nous apportera le message de Jésus-Christ.
Pour notre méditation de ce matin, je vous propose deux lectures. Une première dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 27. Ce même jour, jour de la résurrection, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Clopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un puissant prophète. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision. Des anges qui leur ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Jusqu'ici la première lecture. Nous trouvons également notre deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 30 à 33. Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. » Je vous invite à la prière. Seigneur, encore une fois, devant ces textes, nous voulons faire silence, faire taire nos oreilles pour les bruits du dehors, mais les ouvrir pour entendre ton message, ouvrir les oreilles de notre cœur, ouvrir notre cœur complet pour t'entendre, toi. Seigneur, aide-nous à avoir vraiment les yeux fixés uniquement sur toi, sur ta parole, sur ton message, et vraiment entendre encore une fois aujourd'hui ce que tu as à nous dire. Amen. Aujourd'hui aurait dû être pour la Belgique le dernier jour de confinement. Nous aurions dû reprendre une vie normale. Demain, lundi 20 avril, retourner à l'école, reprendre le travail, retrouver nos habitudes, relancer le train-train quotidien. Rien n'a changé. Boulot, métro, dodo, ou pour d'autres, dodo, manger, canapé. Tout va recommencer comme avant, disent les uns. Ce ne sera plus pareil, disent les autres. Que pensez? Que pensez-vous? Comment reprendre une vie normale quand tout est différent autour de nous? La nature et la planète ont continué leur cycle. Le printemps a fait place à l'hiver. Les fleurs ont coloré les jardins. Les arbres se préparent à donner leurs fruits. Rien n'a vraiment changé. Le soleil devient de plus en plus présent, les jours rallongent, les oiseaux continuent de chanter, rien n'a changé. Pourtant il plane dans l'air une atmosphère pesante, un arrière-goût d'amertume, une odeur, il faut le dire hélas, une odeur de mort. Si la nature a continué, l'homme s'est arrêté. Si les fleurs ont fleuri, les femmes et les hommes se sont fanés. La terre a respiré, mais les malades se sont étouffés. Quel contraste, quel désastre! Tout le monde en parle, sans trop bien comprendre. C'est exactement la situation de nos deux voyageurs en direction d'Emmaüs. Ils viennent de vivre la plus terrible des fêtes de Pâques. À Jérusalem, des Juifs de tout pays s'étaient rassemblés pour vivre l'anniversaire de la libération du peuple esclave en Égypte. Tout devait se passer comme d'habitude, mais un événement allait bouleverser l'ambiance. Un prophète, nommé Jésus, d'abord accueilli comme le Messie libérateur, allait être crucifié avec deux autres brigands. Les conséquences furent terribles. Tremblement de terre, ténèbres à 3 heures de l'après-midi. Les morts sortent des tombeaux. Et le plus grave, le voile du temple qui se déchire du haut en bas, laissant la vue de tous, le lieu très saint, la résidence de Dieu. Comment reprendre une vie normale après cela? Comment poursuivre notre route après un événement qui va changer la face du monde? Comment reprendre le cours de nos activités après une pandémie mondiale? Comment reprendre notre vie de famille? Comment reprendre notre vie d'église? Comment? Je me suis posé la question, que pensait Marie Durand, qui, pendant 38 années, a été confinée dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes, dans le sud de la France. Emprisonnée en 1730, à l'âge de 19 ans, pour avoir été de foi protestante, elle a vu plusieurs de ses compagnes de captivité mourir, alors qu'elles étaient innocentes. Son propre frère fut pendu en 1732. Que pensait-elle durant toutes ces années? De quoi a-t-elle rêvé? Comment allait-elle reprendre la vie si un jour elle s'en sortait? Beaucoup se posent les mêmes questions. Qu'allons-nous faire dès le confinement levé? Plusieurs partagent. Un gros barbecue! Ah! Retrouver ma famille! Reprendre le travail! Refaire les courses normalement! Ah! Oh, partir en voyage! Profiter de la vie! Oh, je pense que toutes ces choses sont légitimes. Mais comment cicatriser nos pensées détruites? Par la peur, l'angoisse, la maladie, la mort peut-être? Nos deux compagnons sur le chemin d'Emmaüs se sont sans doute posé les mêmes questions et ont eu certainement les mêmes réactions. De quitter cette ville qui venait de faire une erreur judiciaire monstrueuse, condamner un innocent le jour de Pâques, le jour de la plus grande fête des Juifs. Mais qu'allait-il faire à Emmaüs? Le récit de l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 12, nous rapporte que Jésus apparaît à deux disciples qui allaient à la campagne. Ils vont prendre des vacances. Ils vont se mettre au vert, peut-être pour réfléchir, méditer, simplement prendre du repos. Ils prennent la direction d'Emmaüs. Emmaüs n'est cité qu'une seule fois dans la Bible, mais se trouve sur le chemin en direction d'Arimathée, d'où provient le fameux Joseph. Joseph d'Arimathée, qui a demandé à Pilate s'il pouvait prendre le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. Emmaüs est aussi sur le chemin vers Joppé, ou Jaffa actuel. C'est là que Pierre s'est rendu chez Simon le corroyeur et qu'il a reçu la fameuse vision de la nappe dans Actes 9:11. Rien n'est par hasard dans les Écritures. Ce chemin est en quelque sorte le chemin de l'expansion de l'Évangile. Mais avant cela, nos deux amis vont faire une curieuse rencontre. Il nous est dit qu'ils étaient des disciples. Ils connaissaient donc Jésus avant l'événement terrible de la crucifixion. Et quand celui-ci se joint à eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont même étonnés que cet inconnu ne sache rien de ce qui s'est passé à Jérusalem. Pourtant, tout le monde en parle. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un nous accosterait et nous demanderait « Qu'est-ce qui se passe ?» À part venu d'une autre planète, et encore, tout le monde a entendu parler du Covid-19. Jésus est hors du temps et des événements, mais le plus important, c'est qu'il fait route avec eux. Jésus, ressuscité, fait route avec nous. Ah, le tout, c'est d'être sur la bonne route. Il y avait plusieurs chemins pour sortir de Jérusalem. Ah, Jérusalem, la ville dite sainte. Sainte, mais pas parfaite. Souvenons-nous de ce que Jésus disait en arrivant devant Jérusalem. Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et le jour de son entrée triomphale, dans Luc 19, 42, comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Jérusalem est aveuglée, elle sera détruite, mais combien elle est chère aux yeux de Jésus pour qu'il pleure dessus. Dans la suite des temps, il nous décrit une nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Je disais donc qu'il y a plusieurs routes pour sortir de Jérusalem. Et la parabole dite du bon samaritain nous en ouvre une autre. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le verbe descendre est vraiment bien employé. En effet, Jérusalem est située en montagne à environ 800 mètres d'altitude, alors que Jéricho, la ville la plus basse de la planète, est située à environ 250 mètres sous le niveau de la mer. Ces deux villes étant distantes de plus ou moins 25 km, ça nous fait une pente continue de l'ordre de 4%. Jéricho. Jéricho, appelée ville des palmiers, est une des plus anciennes cités habitées. C'est une ville luxuriante parce qu'elle est située dans une oasis avec de nombreuses sources. Mais nous sommes loin de la Jéricho qui fut détruite par les Israélites entrant dans la terre promise. Au temps de Jésus, la ville a été reconstruite par Hérode le Grand. La région a longtemps appartenu à Cléopâtre et fut rendue en finalité à Hérode. C'est là qu'il résidait en hiver. Tout ça pour montrer que la réputation de Jéricho était très douteuse et n'avait rien de comparable avec la ville sainte, Jérusalem. Les aveugles et les boiteux étaient mis dehors et n'étaient pas admis du tout dans Jéricho. Ceux qui s'y rendaient n'avaient donc pas les pensées et les intentions très pures. Ceci dit, notre ami de la parabole qui y descend et se fait agresser n'était pas vraiment sur la bonne route de la légalité. Mais que dire évidemment du prêtre et du lévite? Nos comènes peut-être. Et revenons à notre question. Comment reprendre la vie après une épreuve qui a changé la face du monde? Je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, bien qu'une remise en question soit toujours possible, la mort ayant frôlé pas mal de personnes de toutes catégories. Je veux davantage m'adresser à l'Église, corps de Christ. Quel chemin allons-nous prendre pour grandir en maturité? Le chemin d'Emmaüs? Le chemin de Jéricho? Nous pourrions trouver l'excuse que Jésus les a empruntés tous les deux, vu que Zachée habitait Jéricho, et c'est en revenant vers Jérusalem qu'il rendit la vue à Bartimée. Mais allons-nous prendre le risque de nous faire dépouiller? Posons-nous la question, que faisaient le lévite et le prêtre sur cette route peu fréquentable? Il est un fait, c'est qu'ils n'étaient pas droits dans leurs bottes. Autrement, ils se seraient arrêtés pour secourir le malheureux. Mais certainement qu'ils avaient trop peur d'être reconnus ou ne voulaient pas s'impliquer dans un sauvetage qui leur aurait coûté quelque chose. Quelle route voulons-nous prendre en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, en tant que membres du consistoire, en tant que responsables? La route facile qui descend vers le plaisir, en faisant fi de tous ceux qui gisent sur le bord de la route, malheureux, aveugles, sourds, boiteux, pauvres. Ou la route qui conduit vers Emmaüs, sachant que Jésus fait route avec nous. Mais je voudrais vous rappeler les paroles de Jésus. Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Jésus est en train de leur dire, « Vous n'avez rien compris. » Même après un tel événement annoncé d'avance, vous êtes toujours dans la recherche du corps de Jésus, comme cité au verset 23 de notre texte, ou dans la fuite en allant à la campagne en retraite, peut-être pour la bonne conscience. Vous voyez la délicatesse de Jésus? Gens sans intelligence et lent à croire. Quand je vois le nombre d'interprétations entendues pour cette pandémie, même venant de chrétiens annonçant des prophéties parfois tellement fantaisistes, ridicules et pires, dangereuses, n'entendons-nous pas Jésus répéter « gens sans intelligence et hommes de peu de foi » Comment allons-nous gérer l'après-Covid-19? Je continue comme avant. Je m'en fous. Et surtout, je ne vais plus à l'église parce que j'ai été déçu. Je profite de la vie puisqu'elle est tellement courte et fragile. J'entends ce que Jésus me dit et je me remets en question. Jésus a commencé à réexpliquer Moïse et les prophètes. N'est-il pas grand temps de se replonger dans les Écritures? Les Juifs de l'époque de Jésus étaient bercés depuis leur enfance dans la Torah, mais ils n'ont rien compris. Et nous, chrétiens de longue date, tombés dans le chaudron protestant ou évangélique depuis notre enfance, allons-nous rester sans broncher, rivés à nos croyances de biberon de lait sans vouloir manger de la nourriture solide? Tout ça parce que nous ne voulons pas atteindre la maturité spirituelle et comme Paul l'appelle la stature parfaite de Christ. Il ne faut plus nous déranger. On n'en veut pas. Paul dira aux Éphésiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non, nous sommes bien comme nous sommes. Nous avons notre petite église, nous avons notre petit culte, nous avons notre petite tasse de café, notre vie bien peinarde. Pourquoi devrions-nous changer? Parce qu'il y a eu une pandémie. Ce n'est pas la première et ce ne sera peut-être pas la dernière. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Assez. Assez d'être chrétien du dimanche. Assez d'être des consommateurs. L'église n'est pas un supermarché où l'on vient prendre ce que l'on a envie. Et Dieu le bon directeur que l'on dérange quand on en a besoin. Frères et sœurs, cette pandémie va laisser des traces. Ce temps d'épreuve va et doit nous changer. Pas en amertume, mais en volonté d'avoir Jésus en permanence à nos côtés. Dieu place devant nous deux chemins, celui de Jéricho qui descend vers le déclin, celui d'Emmaüs qui mène à l'expansion de l'Évangile. Que face à cette réprimande de Jésus, gens sans intelligence et lents à croire, nous puissions remettre en question notre vie terrestre et aussi notre vie, surtout, spirituelle. Pour terminer, je vous laisse, je nous laisse, un dernier verset de Paul aux Corinthiens, 2e Épître, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Bonne route. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen.
Da levadim bechaneini veda sapai re'im derech otzev bi im derech otzev bi unecheini bader. Sonde-moi, ô Dieu, qui connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Merci Jean-Luc pour ton message. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte audio. Je veux encore partager quelques réflexions avant de vous laisser. Je désire, en ces temps troublés, où l'angoisse et les peurs règnent, vous encourager à mettre votre confiance en Dieu. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse quelques textes bibliques vous appelant à mettre votre espérance en l'Éternel. Le psaume 37, verset 5 dit « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui, et il agira. » Sachons, chers amis, que nos destinées sont dans les mains de Dieu. Écoutez ceci. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité, nous rappelle le prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 4 de son livre. Et plus loin, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 10, il dit « Qui parmi vous rit vers l'Éternel, qu'il écoute son serviteur, si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres, sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. » Pour l'instant, nous sommes dans le brouillard. Nous ne voyons pas clair. Plaçons notre confiance en notre Dieu et appuyons-nous sur son secours. Il est vrai que nous sommes dans la crainte. Et cela est bien compréhensible, car notre ennemi, le coronavirus, est invisible, mais mortel. Alors le psaume 56, verset 4, nous encourage quand nous sommes dans la crainte. Il dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Je souhaite que ces quelques versets puissent vous encourager et vous aider tout au long de cette semaine, semaine que je vous souhaite la plus agréable possible. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu as permis de vivre à chacun d'entre nous ce culte. Nous désirons que tout ce qui a été annoncé porte du fruit dans les cœurs et les âmes de nos amis. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, protège chacun de nous, étend ta bonté sur notre monde et sur notre pays de Belgique. Arrête ce fléau, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Jésus notre berger. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que notre Dieu soit avec chacun de vous, et qu'il soit avec vos familles. Qu'il bénisse votre journée et cette nouvelle semaine. Qu'il fasse de vous une source de bénédiction. Qu'il vous donne sa joie. Mon Dieu, à toi seul le règne et la gloire. Amen. Chers amis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau culte à 10h. Merci de votre écoute. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Nous écouterons le chant « J'ai confiance en mon Seigneur » interprété par Jacqueline.